Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 24 mai prochain se finira l'année Laudato Si. Ah non, encore une émission sur l'écologie, diront certains. C'est que nous sommes un peu durs de la feuille, comme l'on dit. Nous n'avons plus le temps d'attendre, disait quant à lui le pape François le 22 avril dernier. Alors pour finir de nous réveiller, quoi de mieux que d'entendre un peu François Ier, enfin le premier, bref, Saint François d'Assise, l'ami de Frère Soleil et de Sœur Lune qui aimait la vie toute la vie, au point qu'il dialoguait même, dit-on, avec les oiseaux quand je vous disais que nous avions encore du chemin. L'écologie à l'école de Saint-François, Saint-François d'Assise, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi matin. Avec nous, Éric Bidot, vous êtes frère mineur capucin, ministre provincial de France des Capucins, de ses frères mineurs, et auteur d'un ouvrage, La création retrouvée, l'écologie selon Saint-François, paru aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous a par téléphone, on aurait préféré vous avoir en chair et en os.
Et mais réciproquement.
Voilà, c'est les aléas des circonstances sanitaires, entre autres.
Merci en tout cas de ce rendez-vous, merci.
Écoutez, j'allais dire de rien, tant mieux pour nous. Alors c'est vrai qu'on en fait beaucoup sur l'écologie, sur Laudato Si. Vous arrivez un peu, on va dire, en queue de comète là, de cette année Laudato Si, pour ce livre qui a été publié certes en février dernier. Est-ce que vous trouvez, tout simplement, on va dire en ami de Saint François d'Assise, on imagine que vous êtes habitué à la radicalité et aux propos répétitifs, est-ce que vous trouvez qu'on en fait parfois un peu trop sur Laudato Si ou jamais assez ?
Alors, votre réponse appellerait beaucoup d'éléments. À la fois, on en fait beaucoup parce que maintenant, ça commence effectivement à être comme un refrain, donc on peut se lasser un peu d'un refrain. Et puis j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment encore commencé. Et je pense que le pape l'a compris lorsqu'il a, au bout de 5 ans, proposé cette année Laudato Si. Et j'avais entendu que, en fait, c'était presque pour proposer une décennie autour de son encyclique. Parce que on sait très bien que les mouvements de conversion sont lents, que les mouvements de prise de conscience, et que ce qui est en fait en jeu dans cette encyclique de Laudato Si, c'est pas de nous culpabiliser, c'est pas de nous écraser, c'est pas de nous enfermer, mais c'est de nous proposer, moi j'ai envie de dire, c'est un peu audacieux, mais comme une nouvelle dimension de notre vie chrétienne, pour que nous respirions à plein poumon avec toute la création qui est jaillie, ça c'est la phrase pour moi très très belle de Laudato Si, qui est jaillie, de la main ouverte du Père.
Alors justement, j'allais y revenir, enfin j'allais y venir. Votre livre donc est original puisqu'il parle de Saint François d'Assise, mais à l'intérieur de ça, il prend tout de suite un parti pris qui est de pas aborder Saint François d'Assise comme on va dire le saint populaire et l'ami de la création pour le grand public, mais aussi comme le mystique. Vous rappelez aussi que dans Laudato Si, le pape François parle de la mystique de la création. C'est-à-dire que dans le fond, la question écologique, c'est une question profonde de relation à Dieu.
C'est une question de relation. De relation tout azimut, j'ai envie de dire. Et ce que le péché a blessé, c'est justement nos capacités d'être en relation. Nous les avons encore, mais elles sont abîmées, elles sont incomplètes. Et c'est vrai que j'attaque Saint François pas du tout de manière progressive par un petit tour dans la vallée avec les petits oiseaux. Je l'attaque par la fin de sa vie, par les stigmates. Et en ayant constaté, c'est ça qui m'a depuis longtemps interrogé, que c'est après les stigmates, donc ce moment où il reçoit dans sa chair les marques de la passion de Jésus, du fait d'un amour ardent de Jésus qui l'animait, il va écrire le Cantique des créatures qui est une hymne à la relation restaurée, guérie et universelle.
Alors, vous commencez votre ouvrage dans l'introduction en rappelant ce qu'on a vécu au mois d'avril et mai 2020. C'était donc, pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, ce premier confinement. Chacun a des souvenirs, on va dire, plus ou moins heureux. En tout cas, tout le monde a vu ces images que vous rappelez, de canards, entre autres, déambulant devant les tours de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, de deux cerfs évoluant dans une ville en région parisienne. Pourquoi vous commencez par ça ?
Parce que, en fait, ce livre m'a été demandé après un petit passage dans une émission de télévision qui, justement, s'interrogeait sur le fait, mais au fait, quand on est en ville, quand on est au milieu du bitume, mais la création est là. Et en fait, j'avais été interrogé un peu sur cette dimension de retrouvailles, comme si l'on avait, nous, en nous retirant, laissé finalement d'autres éléments du créé auxquels nous appartenons prendre un peu plus de place, se manifester à nous, venir nous communiquer avec nous d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je voulais rappeler, parce que pour moi, il y a un parallèle un petit peu entre cette manière qu'a François finalement d'accepter de se retirer un peu dans la création pour finalement entrer en relation avec.
Alors, entrons dans votre ouvrage. Votre ouvrage est divisé en trois chapitres, très pratique pour l'émission qui est Vivante Église. Vous partez d'un cantique, d'une louange qui est une louange fort connue, cantique de Frère Soleil. Peut-être pourrez-vous en citer des passages. Enfin, je vais en faire un. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures », dit saint François d'Assise, donc au XIIIe siècle, spécialement « Messire le Frère Soleil, lequel est jour et tu nous illumines par lui, et lui il est beau et rayonnant avec grande splendeur de toi très haut, il porte signification, etc. » Et donc vous prenez ce cantique un peu pour nous aider à décrypter, la relation que François avait avec la création.
Voilà, c'est en fait, j'ai là aussi un peu attaqué le cantique, non pas par les éléments qui viennent en deuxième partie, mais par les relations qui se vivent, qui sont des relations de fraternité, de maternité, de pardon, et même jusqu'à la relation à ce moment ultime de notre présence sur Terre, qui est la mortalité. Parce que c'est vraiment ce qui me semble être la découverte profonde que va faire saint François tout au long de sa vie, un être profond appelé à de multiples relations qui se répondent les unes les autres. Et ce qui donne en fait une vie symphonique, pour continuer un peu la métaphore musicale aussi.
Alors une vie symphonique, vous l'avez dit tout à l'heure en fait, et vous commencez par ça, vous commencez un peu par la face nord de saint François d'Assise, puisque vous commencez donc par les stigmates, cette nuit donc de 1225. Un an avant sa mort, il a 43 ans, son corps est épuisé, dites-vous, par les privations et les marches incessantes à travers l'Ombrie, la Toscane, le Latium. Bref, l'apôtre est épuisé et aussi épuisé d'amour pour le Christ. Pourquoi commencer par ça et quel est le lien avec la création ?
Alors, le lien, c'est que si on prend simplement la dimension du corps, la dimension de la chair, c'est par le corps que nous sommes en relation avec tout ce qui nous entoure, hein, par nos cinq sens, que à la fois nous accueillons ce qui nous entoure et en même temps nous essayons de comprendre ce qui nous entoure. Donc cette dimension du corps qui est fatiguée, épuisée, mais que par une grâce mystique, finalement ce Dieu que François a cherché toute sa vie va venir comme habité ou en tout cas confirmé par ses signes dans sa chair. Et alors ça vient confirmer, en fait ces stigmates en fin de vie, ils sont comme un sceau, une confirmation, finalement que François a une manière d'habiter le monde, d'être dans son corps, d'être dans les relations avec tous les éléments de la création et les plus pauvres, d'une manière nouvelle et d'une manière digne de Jésus, on pourrait dire.
Et puis vous nous expliquez donc le cantique, le fameux cantique donc de la création de saint François d'Assise, en fait, a été écrit juste après, c'est ça, qu'il ait été stigmatisé.
Voilà, alors ça c'est vraiment un lien qui a déjà été souligné avant moi, mais que j'ai vraiment, qui m'habite aussi profondément comme frère, c'est-à-dire que la louange de réconciliation, disons, jaillit après ce moment des stigmates, un peu dans le parallèle de la passion de Jésus, c'est-à-dire que nous suivons la passion, il y a le silence du samedi saint, et puis il y a la résurrection qui éclate. Et ce chant du cantique des créatures est un chant de résurrection, en fait.
Alors, avec saint François d'Assise, on imagine que tout va être radical. Alors, disons que le propos va venir rapidement, peut-être au fond du sujet de votre livre, peut-être plus rapidement que dans d'autres émissions. Ce que vous laissez entendre, c'est que saint François d'Assise, en fait, c'est aussi parce que il fait l'expérience d'une pauvreté existentielle profonde que jaillit ce cantique de la création. Est-ce à dire que dans le fond, on ne serait pas assez pauvre, contrairement à saint François d'Assise, pour arriver à rentrer dans une vraie relation avec la création ?
Alors, je pense que c'est un peu l'idée des mains vides, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai les mains vides, eh ben, je peux recevoir, je peux partager, je peux donner. Une des formules que j'applique souvent à Saint François et qu'il utilise à un moment dans un de ses textes, c'est qu'il dit en fait nous sommes des débiteurs, mais nous nous comportons comme des propriétaires. Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens 4:7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et en fait, la posture de François, et cette conversion, elle va être onéreuse dans sa vie, ça n'est absolument pas facile du jour au lendemain. C'est petit à petit de comprendre, à la manière de Jésus qui se fait le serviteur jusqu'au lavement des pieds, de comprendre que finalement c'est dans la position du service, dans la position du serviteur, dans la position de celui qui accepte de recevoir, que l'on ne vient combler et que l'on a accès finalement à ce qui nous était auparavant ou incompréhensible ou invisible. Parce que en fait, toutes ces relations, elles existent dans la création. J'ai été très frappé par je le cite d'ailleurs dans mon livre, et puis c'est une citation qui m'a frappé d'un jeune agriculteur auprès des évêques de France en novembre 2020, qui leur dit « Mais ouvrons les yeux, le sol grouille de fraternité ». Et donc cette fraternité, ces relations, elles existent, et la louange est une de ces relations qui finalement les récapitule toutes aussi.
Alors à propos de la fraternité, dans ce cantique donc à Frère Soleil, autrement appelé cantique de la création, je crois, donc on a « Loué sois-tu mon Seigneur par Frère Vent, loué sois-tu mon Seigneur par Sœur Eau, loué sois-tu mon Seigneur par Frère Feu ». Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette fraternité? C'est quoi? C'est une expression pour François d'Assise où il y a vraiment un sentiment de fraternité, y compris avec le monde végétal et animal?
Oui. C'est-à-dire que petit à petit, il y a une perception sensible d'une relation fraternelle avec tout ce qui est. Alors, ça, on aura un théologien qui s'appelle Saint Bonaventure, qui ensuite va pouvoir aider un peu à comprendre ce que François, lui, a vécu de manière un peu instinctive, En fait, je ramasse ça dans une formule qui peut paraître un peu compliquée, mais qu'on peut comprendre assez facilement. François, en fait, a choisi Jésus. Jésus qui s'est appauvri, Jésus qui s'est fait le serviteur. Et en entrant dans cette manière d'être et d'aimer de Jésus, rédempteur, comme on dit en théologie, il a finalement été introduit à l'amour créateur, c'est-à-dire à tout l'amour qui porte le monde et qui s'exprime dans la création, dans le simple fait que les choses soient. Pas parce que c'est harmonieux, joli et que ça me fait plaisir, mais parce que les choses sont. Et ça ne gomme pas la violence, ça ne gomme pas les impuissances, les erreurs, les chutes, etc. Parce que c'est tout cela que Jésus est venu habiter.
Alors il y a une autre expression de Saint François d'Assise, sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête avant de faire une première pause, c'est quand il dit que la terre est aussi une mère.
Alors là, oui.
J'en entends certains qui bondissent.
Ça y est, c'est une inversion des choses.
Alors, qu'est-ce que François, en fait, entendait par cette expression? Comment peut-on la recevoir de manière profonde et juste?
Alors, c'est l'italien qui, dans le cantique, donc, puisque c'est composé en langue italienne vernaculaire, donc c'est un des textes les plus anciens de la langue, où en fait on a le verbe governare, qui signifie gouverner, mais gouverner au sens de l'italien médiéval, qui veut dire prendre soin de, à la manière d'une mère. Et en fait, François, là, opère, c'est vrai, c'est copernicien comme perception, c'est qu'avant de dire, parce que François connaît la Bible, que nous sommes intendants, que nous avons une place unique comme personne dans la création, il accepte aussi de considérer que la terre, mais aussi les autres éléments, ont une mission aussi de prendre soin de l'homme, de l'enseigner, de l'aider aussi à retrouver le chemin du Père. Il y a une dimension enseignante de la création. Et je pense qu'on le redécouvre un petit peu aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure, le sol grouille de fraternité. Eh bien, c'est en observant la création, en observant aussi les relations qui existent, les vertueuses qui existent entre les éléments, que petit à petit nous apprenons et que nous apprenons que la Terre veut prendre soin de nous aussi.
La création comme un message ou comme une parole.
C'est exactement ce que François vit. La création comme une parole.
La création retrouvée, en tout cas, c'est
tout
le titre
fait.
De votre livre, avec comme sous-titre « L'écologie selon saint François d'Assise » paru aux éditions de l'Emmanuel. On va faire une pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à parcourir cet ouvrage. Vous allez nous raconter des Fioretti de la vie de saint François, des Fioretti, s'ils ont été rapportés depuis aussi longtemps et par d'aussi nombreuses personnes. On imagine qu'il y a plus que du vrai là-dedans, cette amitié mystique que saint François d'Assise finissait par vivre avec la création au point de parler aux oiseaux. Vivante Église, Emmanuel Pella. L'écologie à l'école de Saint-François, Saint-François d'Assise, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi matin, avec comme invité Éric Bidault, qui est frère mineur capucin, ministre provincial de France de ces mêmes frères mineurs capucins et auteur donc d'un ouvrage que l'on parcourt, La création retrouvée, l'écologie selon Saint-François, paru aux éditions de l'Emmanuel. Frère Éric Bidault, avant qu'on parcourt quelques événements et Fioretti de la vie de Saint-François d'Assise, qui nous aident peut-être à entrevoir la profonde communion que saint François vivait avec la création. Est-on sûr des Fioretti que l'on raconte de la vie de saint François d'Assise?
Bonne question. Ce qui est sûr, c'est que je pense à la prédication aux oiseaux, par exemple. Elle a été racontée plusieurs fois. Et elle a beaucoup marqué les esprits, puisque Giotto, par exemple, donc dès la fin du XIIIe siècle, hein, François meurt en 1226, et à la fin du XIIIe siècle, à peine 70 ans après, Giotto représente dans la basilique supérieure cette scène qui était déjà présente dans la basilique inférieure depuis les années 1250 et qui va donner lieu ensuite à une postérité chez Messiaen au XXe siècle, dans la littérature, la poésie, la peinture, impressionnante. On a beaucoup d'histoires et toutes ces histoires, je pense, elles convergent un peu vers une même réalité, c'est-à-dire une capacité sensible, c'est pas évanescent, c'est sensible d'entrer en relation avec la création et une capacité pour ces éléments de la création, je pense particulièrement aux animaux, de sentir, de percevoir une manière originale d'être, désarmé, les mains vides, de François. Je pense que ce sont des rencontres, en fait. C'est comme une reconnaissance mutuelle.
Alors, à ce sujet, donc, vous citez quelques histoires qui concernent des éléments ou des végétaux ou des animaux, donc le soleil, l'eau, les fleurs, les oiseaux, les agneaux. Vous commencez par le soleil, les étoiles et le feu. J'allais dire ça tombe bien parce que pour tous ceux qui sont versés dans une spiritualité un petit peu New Age, comme on la qualifie parfois, le soleil a une place importante et le feu aussi, parce que c'est ce qui nous donne la vie. Comment est-ce que François regardait le soleil ou le feu?
Alors, d'abord, il y a l'idée du thème de la lumière, justement, de la lumière qui, pour le feu, chasse les ténèbres. C'est quand même une dimension biblique très importante hein, qu'on voit depuis le livre de la Genèse et puis dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, qui marquait très fortement François. Pour le soleil, c'est la générosité du soleil. C'est que le soleil est fort et généreux. Et cette générosité, pour François, c'est l'être même de Dieu. Dieu est générosité, on pourrait presque rajouter à sa longue liste d'attributs de Dieu. Dieu est générosité, c'est-à-dire qu'il veut donner sa vie, il la donne, il se donne à voir en abondance dans tout ce qui est créé, il nous fait tenir dans l'être et il est jaillissement de vie en lui-même, en se donnant le Père tout entier au Fils dans l'Esprit Saint et en débordement d'amour qu'est la création. Et donc le symbole par excellence, c'est le soleil.
Et c'est-à-dire que c'est pour ça que François a appelé le soleil Messire Soleil ?
Messire, voilà. Il y a une dimension un peu féodale aussi. Hein, il est frère, mais il a une noblesse aussi, qui dépasse tous les autres éléments du créé. Alors, on sait aussi, pardon, que le soleil, alors à condition qu'il ne grille pas, mais qu'il accompagne la vie aussi, hein, qu'il accompagne notre psychologie, par exemple, on le sait bien. Hein.
Alors racontez-nous l'histoire du feu. Je ne le connaissais pas, ce Fioretti. Pourtant, j'en ai fait comme 2-3 émissions sur Saint-François d'Assise. Comme quoi,
c'est bien de découvrir toujours voilà, quelque chose.
Ce sont des vies encyclopédies.
Oui.
Cette histoire du feu, commencez peut-être par le Fioretti et dites-nous ce qu'il dit.
Alors, le rapport de François au feu, c'est un rapport, viril, j'ai envie de dire, hein, un peu avec cette dimension du feu qui va le guérir, puisqu'il va être cautérisé, mais qui en même temps va le blesser, et puis de ce feu qui prend feu dans des objets, et que François va vouloir laisser faire, mais il y a un frère qui lui a dit, écoute, si on laisse le feu tout ravager, et donc au nom de l'obéissance, je te demande de l'éteindre. Mais c'est vraiment la mort dans l'âme que François va éteindre, parce que derrière le feu, il y a l'idée c'est une des images de l'Esprit Saint aussi, donc de cet esprit qui veut brûler sur son passage, mais pour réconcilier, pour convertir. Et puis il y a aussi l'idée d'une vie assez fascinante qui se propage. Donc il y a toutes ces dimensions autour du feu.
Alors le Fioretti sur Saint-François et sa plaie sur laquelle on allait appliquer donc une braise ardente et il s'adresse à Frère Feu.
Et oui, en lui disant, alors j'ai plus les mots exacts là sous les yeux, donc je vous le fais de mémoire, mais en lui disant de prendre soin de lui.
Alors je vais citer.
Allez-y, si vous avez le texte, je ne l'ai pas sous les yeux.
Mon frère feu, d'une beauté que devraient envier toutes les autres choses, le Très-Haut t'a créé puissant, beau et utile. Sois-moi propice en cette heure, sois courtois, car autrefois je t'ai aimé dans le Seigneur. Et François demande en fait au feu de l'aimer, quelque part, et de lui rendre, on va dire, la considération qu'il a pour lui. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai compris, Et le feu ne le brûle pas, ou il ne sent pas, en fait, la brûlure.
Oui, oui. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans cette amitié de reconnaissance, finalement. François dit, voilà, je t'ai reconnu, j'ai envie de dire, à ta juste valeur. Je ne t'ai pas méprisé, je t'ai reconnu, tu es un signe, tu es un symbole, tu es avec moi dans la création. Et bien maintenant, je te demande de prendre soin de moi. C'est d'une audace énorme. Alors, dans certains récits de ce Fioretti, on a les compagnons de François qui partent, parce qu'il y a quand même un... Comment dire, il cautérise quand même. Hein. Il y a quand même une odeur de chair brûlée. C'est pas les petits oiseaux tout roses. Hein. Le feu fait son œuvre, mais ne lui fait pas mal.
Alors, autre...
C'est même assez merveilleux aussi comme scène.
Autre Fioretti, c'est les fameux Fioretti des oiseaux. Ceux-là, c'est peut-être les plus connus. François en vient. On imagine que c'est plutôt à la fin de sa vie, non ?
Parce que suivant les biographies, c'est pas du tout au même moment. Donc, il y a eu probablement plusieurs rencontres aussi. Hein.
Alors, ces rencontres, racontez-nous l'une ou l'autre. Vous dites qu'il y a de nombreux récits qui rapportent ces rencontres. Donc, on peut imaginer plus il y en a, plus on peut accorder du crédit à ce type de récit.
Oui, et puis alors, donc qu'à certains moments, on peut recouper un certain nombre d'éléments communs ou au contraire l'enrichir de manière nouvelle. Bon, je n'ai pas là aussi le texte, mais je vous le dis de mémoire, c'est des textes, c'est vrai, qui m'habitent pas mal. Une des sources, c'est un Fioretti où justement François vient d'entreprendre un discernement sur la manière de suivre Jésus. Est-ce que c'est de rester à l'ermitage, dans la solitude, la contemplation priante, ou est-ce que c'est d'aller annoncer l'évangile sur la route? Et puis, ben, François reçoit confirmation par un frère et une sœur, Clarisse, que c'est d'aller sur les routes. Il part et il voit un champ dans lequel il y a des oiseaux. Il s'arrête et à ce moment-là, il commence à être comme... ivre de joie au milieu du créé et à leur parler, à les inviter à louer Dieu parce qu'ils n'ont pas à se soucier du lendemain, parce que leur plumage les protège. Donc Dieu a vraiment pris soin d'eux au moment de la création. Il leur donne encore et donc ils peuvent s'en remettre à la providence. Et puis l'oiseau, c'est celui qui va et vient entre ciel et terre et qui aussi sans doute est une image de l'âme pour Saint François. C'est-à-dire à la fois d'être de cette terre et d'avoir pleinement ses racines et puis son esprit en Dieu.
Il y a un autre épisode où il s'adresse aux oiseaux, vous racontez ça, je crois que c'est un passage où il s'adressait à ses frères, les oiseaux faisaient trop de bruit, et il leur demande de baisser un peu le volume, si je puis dire.
Oui, alors ça c'est aussi un élément très intéressant, parce que ça dit bien que François a conscience de la place de l'homme dans la création. C'est pas... on n'est pas dans ou l'anthropocentrisme ou le biocentrisme, qui est un peu un sujet d'aujourd'hui. L'homme, et en particulier chrétien, serait coupable de cet aspect dominateur. Donc, il vaut mieux l'éliminer pour que la création puisse enfin s'épanouir comme elle le devrait. En intimant aux oiseaux de se taire, François leur dit « Bon, je vous ai reconnu, vous avez pleine valeur à mes yeux, nous sommes en amitié, mais ma mission... » C'est un peu le mot que j'utilise dans ce livre. Elle est une mission aussi sacerdotale, c'est-à-dire une mission d'intermédiaire entre vous, les éléments de la création, et le Créateur. Et ça, moi seul, comme personne humaine, à l'image et à la ressemblance de Dieu, je peux le faire. Donc, écoutez et joignez-vous d'une certaine manière à ma voix qui veut louer le Créateur qui est à la source de tout ce qui est.
Alors sur les, on va y revenir après, hein, donc sur les éléments de la création. Non, sur le monde végétal et le monde animal et cette communion que François vivait. Il y a de multiples exemples. Par exemple, vous dites que de peur que les abeilles ne meurent, il leur faisait porter du vin et du miel en hiver. Vous avez justement une expression à ce sujet. Vous dites que toute la création est faite pour l'homme. J'ai souvenir d'un passage dans Laudato Si, où le pape François disait, j'allais dire au contraire, mais ce n'est pas vraiment à opposer, que la création est aussi voulue pour elle-même.
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce distinguo? Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que le pape François entend par « voulu pour elle-même »
Je pense qu'il ne faut opposer aucune des deux formules. Enfin, il ne faut pas opposer les deux formules. Il ne faut pas les opposer parce qu'elles sont complémentaires. Le fait que la création a une valeur en elle-même, ça c'est une évidence. Et pour François, l'amitié qu'il a pour Frère Feu, pour Sœur Lune, etc., montre bien que les éléments dans leur matérialité, dans leur concrétude, on pourrait dire, ont pleine valeur en eux-mêmes. Ils portent l'empreinte de la Trinité créatrice. Ça, c'est un acte de la théologie qu'on appelle la théologie symbolique. C'est un acte de la théologie que de considérer que tous les éléments de la création, d'une certaine manière, portent l'empreinte de la Trinité qui est à l'origine de tout ce qui est. Donc la création a une valeur en elle-même, et aussi la création a été voulue comme le livre dans lequel l'homme, la personne humaine, peut lire les traces du Créateur. Et la création est enseignante aussi de l'homme dans sa manière de louer Dieu, de percevoir après la chute la manière dont Dieu veut agir amoureusement auprès de lui et auprès de tout le créé. Donc ce sont deux expressions en fait qu'il faut tenir ensemble et qui se complètent, qui s'éclairent mutuellement.
Parmi les Fioretti de la vie de Saint François d'Assise et son rapport à la création, je vous laisse choisir peut-être la suite, quoique moi j'ai une petite préférence pour l'agneau.
Alors, allez-y.
Pour l'agneau, la préférence pour l'agneau, je ne connaissais pas cette histoire aussi, la manière dont François considérait les agneaux et le Fioretti que vous rapportez à ce sujet.
Alors, le principe de l'agneau, c'est que là aussi, on est dans de la théologie symbolique, c'est que l'agneau, dans l'Écriture, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils, c'est-à-dire, comment dire, c'est pas encore l'âge adulte, c'est celui donc qui a accepté de prendre le chemin de la faiblesse, et Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu. Donc, on a bien, puis on a aussi l'exemple avec le ver de terre, on a bien l'idée que c'est pas, comment dire, une vénération de la création. C'est une célébration de la création en ce que le livre de la création peut être lu aussi au diapason du livre de l'Écriture, de la Bible.
Mais alors,
Et François, pardon, fait donc ces liens finalement.
racontez juste l'histoire peut-être avant. C'est qu'il avait l'habitude en fait de demander aux frères d'acheter des agneaux, c'est ça, ou
Alors,
de...
en fait, j'ai plus tout en tête, c'est un peu pour ça aussi.
Alors,
Dites-le.
ce que vous rapportez, c'est que, si j'ai bien compris, c'est qu'il arrivait que saint François d'Assise demande à ses frères de racheter des agneaux qui devaient être conduits à la mort,
Oui.
se souvenant de cet agneau très doux qui a voulu lui être conduit à la mort, qui est le Christ. Et puis vous rapportez aussi un épisode où cette fois François est semble-t-il moins tendre, si je ne me trompe pas,
Avec la truie,
avec la
hein,
truie,
c'est
voilà.
ça. Oui, avec la truie qui justement va venir tuer l'agneau. Et à ce moment-là, mais parce que là, on a dans cette scène, on a vraiment François qui aime Jésus et cette scène de l'agneau lui rappelle en fait Jésus qui, comme un agneau, est conduit à l'abattoir et va être finalement mis à mort.
Puisque donc c'est une truie qui menace un agneau, qui le tue, hein, et puis après François demande à ce que le cochon soit lui, on va dire, empalé au large du petit village
Eh
des
bien oui,
franciscains. Hein.
parce qu'elle est coupable de meurtre, donc elle s'est coupée de la relation, donc finalement elle se dessèche, et ça signifie qu'elle s'est coupée d'elle-même de la relation et de la relation vivifiante finalement.
À ceux qui trouvent que saint François d'Assise serait un peu excessif. Qu'on va dire, c'est réservé à des mystiques. On va leur dire si ça leur fait plaisir. Qu'est-ce que vous répondriez?
Non, moi je vois deux caractéristiques finalement dans le tempérament, dans la psychologie, l'être de François. C'est un homme généreux et sensible. C'est un homme généreux et sensible. Et ça, ce sont deux caractéristiques qu'on a avant sa conversion, qu'on a aussi qui vont être profondément remis en cause au moment justement de son arrestation, du temps de prison, etc., qui vont marquer sa conversion et qui vont lui être comme redonnés par sa foi et son ardeur à aimer Jésus, tout simplement, qui vont lui être redonnés autrement. Et finalement, il y a générosité et sensibilité qui s'expriment dans la manière d'être en relation.
Ça veut dire que on serait tous appelés en fait à vivre
Oui.
une communion profonde avec la création. Tout le monde n'est pas appelé à un jour pouvoir s'adresser aux petits oiseaux, j'imagine.
Mais écoutez, Bonaventure, qui est donc le théologien franciscain qui va mettre en forme un peu l'intuition et la pratique de François, dit dans l'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu, en fait, celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne goûte pas que toute la création appelle à la louange du Créateur est en réalité aveugle et insensible. Donc le péché nous a rendus insensibles. Et notre conversion est aussi une restauration de notre sensibilité véritable, c'est-à-dire qui consiste à entrer en relation sans saisir, sans retenir, mais en étant, j'aime bien cette expression, comme une terre de passage finalement.
Éric Bidault, frère Éric Bidault, pardon, dans Laudato aussi, j'avais souvenir à l'occasion d'une série d'émissions qu'on avait faites, que le pape François en fait aurait entériné, on va dire, une grande réalité, qui est qu'on ne trouve pas seulement Dieu dans l'autre, et particulièrement dans les plus pauvres, dans la vie de l'Église, dans les sacrements, dans la prière, mais aussi dans la création. Et c'était dans le fond quelque chose qui existait dans la théologie franciscaine,
Ah oui.
mais qui n'était pas au cœur, on va dire, proclamé au cœur de l'Église, et qui a
Non,
été
ouais.
aujourd'hui reconnu. Est-ce le cas?
Oui, bah, tout à fait, puisque la fin de Laudato si, mais c'est avec la citation notamment, plusieurs citations de Saint Bonaventure. Bon, Bonaventure, c'est le XIIIe siècle, hein. Donc, enfin, mais ça ne date pas du XIIIe siècle. Déjà, chez des pères de l'Église, chez des pères du désert, on a déjà cette perception de la présence, d'une forme de présence, pour être précis d'une forme de présence de Dieu dans la création. Et simplement, c'est vrai qu'assez vite, finalement, après François, on l'a un peu laissé tomber. L'Orient l'a beaucoup moins laissé tomber que nous, l'Occident. Est-ce que c'est dû à une espèce de polarisation sur la personne humaine, finalement, sur l'esprit humain? Alors après, avec Descartes, avec la philosophie des Lumières, tout ça, on va se concentrer, finalement, sur la personne humaine, sur son esprit, sur sa capacité d'abstraction, de spéculation, etc. Puis en oubliant un petit peu le contexte et les éléments dans lesquels nous sommes, c'est peut-être une des raisons. Mais aujourd'hui, la crise écologique, et c'est pour ça que je disais au début, on n'est pas sur un registre de culpabilité en parlant beaucoup de Laudato Si. On est sur un registre d'accomplissement de ce que nous sommes.
La création retrouvée, c'est le titre de votre livre paru aux éditions de l'Emmanuel. On va faire une deuxième pause musicale et on va continuer de vous retrouver, de parcourir cet ouvrage, peut-être en teasing de cette troisième émission pour ceux qui se disent qu'on a dit l'essentiel quand on a raconté ces Fioretti de la vie de Saint François. L'angle de votre livre, c'est de nous faire entrevoir en fait le chemin de conversion qu'a été celui de Saint François d'Assise en partie à travers la création. Et c'est l'angle de votre dernier chapitre. On suivra encore plus pas à pas Saint François d'Assise et on pourra entrevoir du coup peut-être le chemin qui nous est promis.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'écologie à l'école de Saint-François. Saint-François d'Assise, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec le frère Éric Bidault, qui est frère mineur capucin, ministre provincial de France et auteur donc d'un ouvrage que l'on parcourt pour ceux qui nous engendraient la création retrouvée, l'écologie selon Saint-François, paru aux éditions de l'Emmanuel. Je le disais, et vous l'avez dit, je crois, au début de l'émission, l'angle de votre livre, c'est de nous aider à rentrer dans le chemin qui est celui de François et la place qu'a eu la création dans son cheminement spirituel. C'est ce que vous faites particulièrement dans le troisième chapitre. Avant qu'on le parcourt, le problème, je trouve, pardon pour une fois de parler à la première personne,
c'est
qu'avec Saint François d'Assise, en fait, l'horizon est tellement loin, la vie de cet homme a été tellement extraordinaire, qu'on peut regarder ça avec émerveillement ou interrogation, c'est selon, mais avoir du mal à entrevoir que lui aussi a fait un chemin.
Voilà,
qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui sont un peu parfois découragés par la grandeur de ce saint?
Oui, tout à fait. C'est une figure à la fois sympathique, parce qu'on le voit très humain, hein, profondément humain, et puis sachant se réjouir, s'émerveiller, souffrir, donc il a une proximité avec nous, puis en même temps c'est un peu le saint qui crève l'écran, on pourrait dire. Je pense qu'il ne faut jamais oublier, et puis quand on lit les biographies, qu'on lit sous l'angle historique, etc., l'aspect aussi, jamais abouti, disons, de son chemin de conversion. Il y a un épisode sur lequel on parle peu, mais qui se trouve à peu près dans les années autour des stigmates, un petit peu avant, qui est en fait une année de on le dirait aujourd'hui comme ça, de profonde dépression. Parce que ce que François aspirait à être, d'abord il s'aperçoit qu'il est pécheur, ensuite qu'il n'y arrive pas, que les frères ne vivent pas selon ce qu'il a voulu, et il y a un moment de profond découragement. Et ça, Éloi Leclerc, le frère franciscain, l'a très très bien exprimé dans « Sagesse d'un pauvre ». Et je pense que pour entrer dans l'être de saint François, « Sagesse d'un pauvre » aussi est un très beau livre.
Alors là, ça ne nous décourage pas moins de suivre saint François d'Assise, à vous entendre.
Parce que
une fois de plus, c'est des extrêmes en fait. Hein. Tout le monde ne traverse pas ces extrêmes ou n'est pas forcément appelé à vivre ces extrêmes.
Non, mais tout le monde, si on n'est pas dans des polarités forcément très lointaines, on est tous dans des polarités en tout cas qui se rapprochent, c'est-à-dire de moments d'émerveillement, de moments de joie simple, de moments de découragement, de moments où on a l'impression qu'on est un peu dans l'impasse. Et à ce titre-là, François peut parler à tout le monde. C'est un peu ce que j'ai essayé dans le livre et dans la troisième partie, c'est de donner un certain nombre de caractéristiques qu'il a vécu d'une certaine manière avec son tempérament, mais finalement qui nous traverse nous aussi. Par exemple, la dimension d'une certaine solitude. Qui n'éprouve pas à certains moments une certaine solitude un peu existentielle dans ses relations, dans une aspiration à se mettre un peu à l'écart à certains moments. Donc je pense qu'au contraire, François parle peut parler à beaucoup de gens.
Alors venons-y donc dans ce parcours spirituel. Donc vous parlez de la solitude, d'un François dépouillé jusque dans son corps, d'un François contemplatif, d'un François pèlerin, etc. Et à chaque fois, donc vous nous invitez en fait à voir quelle est la part que la création a eue dans ce chemin. Solitude, c'est tout simplement les grottes, c'est ça, dans lesquelles il allait se réfugier.
Alors oui, il y a la dimension du retrait, la dimension de se mettre à l'écart. Alors la grotte, c'est aussi un lieu sombre, un lieu un peu comme une forme de matrice, comme un ventre un peu. On retrouve le thème de la maternité. Et François en sortait, raconte frère Léon, épuisé. Donc il s'y livrait un combat. C'était pas du tout une solitude simplement de quiétude. Hein. C'est une solitude aussi d'affrontement. Ou comme on dit un peu de manière courante, on affronte ces vieux démons. Vous savez, on a ça chez les pères du désert. Hein, quand ils partent au désert, ben, c'est sûr que les relations sont moins nombreuses, mais alors intérieurement, on s'aperçoit qu'on est animé de beaucoup de passions, qu'on est animé de beaucoup d'incohérences et qu'il s'agit d'y chercher la paix là-dedans.
Alors, donc ça, c'est le début de la vie de saint François d'Assise, puisque c'est quand on va dire, il décroche de sa vie d'avant, avec les mots modernes, où il va prendre des grands moments de solitude. Ensuite, vous parlez donc d'une autre période, le chapitre s'appelle « Dépouillé », qui est un épisode où François se retrouvera nu.
Oui.
Vous en parlez parce que la création, c'est quoi ? C'est aussi le corps, c'est ça ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la création, oui, c'est aussi le corps. Et puis que de plus en plus, ça fait maintenant 20 ans que je suis rentré chez les frères, de plus en plus, ça me paraît être un élément qui en explique beaucoup d'autres de la vie de saint François. C'est-à-dire cette capacité à renoncer à une toute puissance en se dépouillant, cette capacité aussi à retraverser ce thème de la nudité qui est un thème de l'origine finalement. À l'origine, ils étaient nus et n'avaient pas honte. Et finalement, par ce passage d'être accueilli par l'évêque qui va l'habiller. Et François, un des biographes, Bonaventure, raconte que François était d'une joie débordante.
Alors juste re-raconter l'épisode, parce que tout le monde n'en est pas familier. C'est donc...
Oui, alors donc François est convoqué par son père en place d'assises. Et parce que le père en a marre que François dilapide l'argent du magasin, et donc il l'assigne en justice. Et François a compris l'objet de la condamnation, et anticipe, et se déshabille, rend tous ses vêtements à son père et son argent, et dit « Désormais, je n'ai plus qu'un seul père ». Et il se met à réciter la prière du Notre Père. Et l'évêque va venir couvrir la nudité de François de son manteau en signe d'accueil, de consentement finalement à ce qui vient de s'exprimer. Et ce lieu est devenu à Assise, là récemment, le sanctuaire du dépouillement, c'est-à-dire le sanctuaire du lieu où l'on dépose tout ce qui est pesant, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est péché dans notre vie, pour être comme restauré comme l'enfant prodigue, par la bonté, par l'amour généreux du Père. Et en fait, c'est un peu comme un programmatique finalement cette scène dans la vie de François.
C'est-à-dire ?
Programmatique, c'est-à-dire que cela annonce ce dépouillement que François va accepter de vivre, ce renoncement, ce chemin de la pauvreté, qui faisait que François avait froid, François avait faim, cette capacité à renoncer pour recevoir davantage. Et finalement se réjouir d'embrasser le lépreux, se réjouir de chercher Dieu dans les plus petites occasions et dans les occasions les plus ordinaires. Et la nudité jusqu'à sa mort, puisqu'il va demander à être couché nu sur la terre nue, c'est-à-dire un autre moment de passage qu'est la mort.
Alors dans ce chemin spirituel, donc vous rappelez ces premières années de conversion, donc la solitude, là, cette grande étape du dépouillement que vous venez de rappeler, et puis après vos autres chapitres, c'est contemplatif, pèlerin, héros. On imagine que les trois se mêlent un peu peut-être sur la suite de la progression spirituelle de François d'Assise.
Ouais.
Peut-être le chemin, c'est aussi un élément qui est cité par le pape François. Moi non plus, j'ai plus forcément en tête exactement la citation, mais il me semble qu'il dit dans la Laudato aussi, on l'a rappelé souvent à cette antenne, il y a dans le chemin, dans le visage d'un pauvre, dans
le mystique.
Voilà, une mystique.
Alors, il y a une mystique de la feuille verte, une mystique du chemin, une mystique du pauvre.
Alors si vous deviez vous arrêter justement sur Saint François d'Assise, pèlerin, là l'élément de la création qui a façonné ce François pèlerin, quel est-il justement? Ce sont les chemins qu'il a empruntés au long de toutes ses missions?
Oui, alors c'est bon, il y a la dimension itinérante, il y a la dimension de, en fait le pèlerin c'est ce qui montre qu'on est à la fois en marche sur cette terre, qu'on n'est pas encore arrivé, mais qu'on est aussi dans un mouvement qui a une direction et qui est la patrie en fait, qui est la communion avec Dieu. Et à ce titre-là, je cite dans le livre par exemple le code du pèlerin qui pour François était vraiment important, comme le fait d'être accueilli sous le toit d'autrui, c'est-à-dire d'accepter de s'en remettre aux autres, c'est une dimension de la providence, de passer pacifiquement, c'est-à-dire de rayonner une dimension de paix sur son passage, qui était un souhait de François, puisque partout où il passait, et on en a gardé des traces dans certains villages en Italie, il pouvait dire que le Seigneur vous donne sa paix. C'était la salutation de François. Et puis troisièmement, aspirer à la patrie, c'est-à-dire avoir un vrai désir d'être avec Dieu, et qui fait que ce désir marque ma manière d'être déjà maintenant en état de le recevoir.
Qu'est-ce qui reste dans la vie franciscaine, frère Éric Bidault, de cette place qui est faite à la création? On imagine que, comme tous les ordres religieux au long de l'histoire, les choses ont varié, et puis que vous aussi, vous vivez plus en ville que ça n'était par le passé. Est-ce qu'il reste une attention particulière à la création? Comment ça se vit? Que dit
Alors,
votre règle là-dessus?
Oui, ça se vit vraiment avec ce thème de la fraternité, vraiment. Une fraternité qui prend des formes très différentes suivant les frères. Ça fait donc maintenant 20 ans que je vis. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de frères qui avaient un vrai soin du créé. Jusque dans la recherche, je pense à un de nos frères qui est mort là de la Covid au printemps dernier et qui s'est lancé à 90 ans, il est mort à 99 ans, dans la permaculture. Fasciné par cette fraternité qui insiste à l'intérieur du créé, donc il y a le soin du jardin potager, ça on a chez beaucoup de frères, et puis aussi cette dimension de la fraternité, de la mystique du visage du pauvre, avec des personnes en situation de précarité, incarcérées, malades. Donc le point commun de tout cela, c'est vraiment une fraternité et une prise en compte que d'une certaine manière, Dieu habite dans tous les éléments et que nous sommes en relation les uns avec les autres.
Eh ben merci frère Éric Bidault d'avoir été présent pour cette émission.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je rappelle le titre de votre livre, La création retrouvée, l'écologie selon Saint François, livre à parcourir. en cette fin d'année Laudato Si, ou peut-être pour lancer la suite de cette année parue aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci.
Merci. Au revoir.
À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.